France Culture.
Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Trois films pour l'Ukraine et une tribune de cinéastes en soutien à Gaza. Le festival de Cannes se fait l'écho d'une actualité internationale agitée. Il ne peut pas non plus faire abstraction de la condamnation de l'acteur Gérard Depardieu pour agression sexuelle. Nous retrouverons à Cannes notre spécialiste cinéma Antoine Guillot. Les émeutes du 13 mai 2024, commémorées en Nouvelle-Calédonie malgré l'interdiction de manifester, Charlotte Manvi nous emmènera à Saint-Louis, bastion indépendantiste à l'est de Nouméa. Benjamin Netanyahou ne compte pas arrêter la guerre. L'armée israélienne, déclare le Premier ministre, entrera avec toute sa force dans la bande de Gaza dans les jours à venir. Nous irons à Jérusalem. Et puis avec Nathanaël Charbonnier, nous évoquerons la situation au Mali où la junte militaire au pouvoir a promulgué la loi supprimant la charte des partis politiques, ouvrant la voie à leur dissolution. Alors que s'ouvre le Festival de Cannes, la condamnation de Gérard Depardieu pour agression sexuelle a une résonance particulière. L'acteur est condamné à 18 mois de prison avec sursis pour avoir agressé deux femmes sur un tournage en 2021. En plus de la prison avec sursis, le tribunal correctionnel de Paris a prononcé son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et une peine d'inéligibilité de 2 ans conformément aux réquisitions du parquet. L'acteur de 76 ans n'a pas assisté au délibéré qui a satisfait les victimes, Anne Fauquemberg.
Seule Amélie, l'une des deux victimes, était présente et son visage s'ouvrait au fur et à mesure de la lecture du délibéré. À la sortie, son avocate, Karine Durieux-Diebolt, espère qu'une page se tourne.
J'espère que c'est la fin de l'impunité d'un artiste dans le milieu du cinéma. J'ai entendu également certains acteurs récemment encore apporter leur soutien à Gérard Depardieu. Je crois qu'avec cette décision-là, on ne peut plus dire qu'il n'est pas un agresseur.
La satisfaction était d'autant plus grande pour les parties civiles que la peine de Gérard Depardieu a été assortie d'une indemnisation pour victimisation secondaire liée à la défense agressive de son avocat, Claude Vincent, et l'avocate de Sarah, la seconde victime.
Cette décision sur la victimisation secondaire, elle est tout à fait légitime. Il n'est pas question de remettre en cause les droits de la défense, qui sont effectivement intangibles, mais que les droits de la défense ne sauraient justifier une atteinte à la dignité des victimes qui sont elles aussi parties à leur procès. C'est ça qui est important également, mais qu'il faut bien avoir en tête.
Mais Jérémy Assous, l'avocat de Gérard Depardieu, n'est pas du tout d'accord.
On a passé une nouvelle étape, c'est-à-dire que maintenant, la défense même dans ce type d'accusation, de procès, n'est plus acceptée. Ça revient à dire qu'une personne qui vous accuse est automatiquement une victime et par voie de conséquence, vous êtes automatiquement coupable. Donc finalement, il n'y a plus de procès.
Il a tout de suite annoncé faire appel de la condamnation de son client.
Et une autre réaction à la condamnation de Gérard Depardieu, celle du collectif 50-50, qui promeut l'égalité des femmes et des hommes et la diversité sexuelle et de genre dans le cinéma et l'audiovisuel. Écoutez Marine Longuet, administrative du collectif et assistante de réalisation.
La justice a reconnu sa culpabilité, donc on peut dire qu'on va dans le bon sens puisqu'il y a eu un travail de justice, que les victimes ont été écoutées, qu'il y a eu des débats et qu'il y a eu des décisions de prise. Donc ce qui est important, c'est aussi que les personnes puissent avoir foi en la justice. Donc la justice œuvre, la justice donne des décisions et ça, on s'en réjouit. Nous, on constate avec le collectif 50-50 que ça fait plusieurs décisions de justice concernant des affaires, on peut dire, issues de l'industrie du cinéma. Donc on se félicite que la justice se saisisse de cela. À la fois, il y a un travail de justice, il y a un travail de société et aussi il y a un travail de l'ordre de l'intime. Et on peut se poser la question de qu'est-ce que ça raconte dans le cinéma, un corps en fait, un corps dans l'industrie du cinéma. Que fait-on de ce corps et comment on incorpore ce corps dans le droit du travail? Ce qu'ont l'air d'oublier beaucoup de personnes, c'est qu'en fait, les questions de violences sexistes et sexuelles relèvent du droit du travail.
Marine Longuet, administratrice du collectif 50-50, au micro de Fiona Mogadam. Le festival de Cannes se serait bien passé de cette collision d'agenda. Le jour de la cérémonie d'ouverture, on aurait aimé parler de Robert De Niro qui se verra remettre une palme d'or d'honneur, de Mylène Farmer qui va chanter ce soir ou d'Amélie Bonin dont le premier long métrage est le film d'ouverture. Bonsoir Antoine Guillot.
Bonsoir Aurélie.
Producteur de l'émission Plan Large, vous êtes notre envoyé spécial tout le temps du festival. L'onde de choc de la condamnation de Gérard Depardieu se propage jusqu'à Cannes, Antoine.
Effectivement, Aurélie, la condamnation de Gérard Depardieu, rappelons-le, prix d'interprétation à Cannes en 1990 pour Cyrano de Bergerac, marque d'autant plus ce début de festival que la Croisette fut longtemps, et sans doute malheureusement encore, le terrain de chasse favori de toutes sortes de prédateurs sexuels, le plus fameux et sinistre d'entre eux étant bien sûr le producteur Harvey Weinstein, celui contre qui le mouvement MeToo avait débuté il y a bientôt 8 ans. Appelé très directement par la commission d'enquête parlementaire sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu de la culture à prendre le problème à bras-le-corps, le festival, par la voix de sa présidente Iris Knobloch, avait assuré en tenir compte. Eh bien, ça s'est traduit aujourd'hui par une nouveauté pour cette édition 2025. Une charte du festivalier a été publiée qui, outre quelques précisions vestimentaires, les talons hauts ne sont plus obligatoires sur le tapis rouge, mais les robes à traînes longues sont proscrites car leur volume entrave la bonne circulation des invités. Eh bien, la charte affirme ne tolérer, je cite, aucune forme d'insulte, violence, discrimination ou harcèlement qu'elles émanent de son personnel, de ses partenaires, de ses prestataires ou des festivaliers, sous peine pour ces derniers d'un retrait définitif de leur accréditation, ce qui équivaut sur la Croisette à une quasi mort sociale. Plus curieux, et dans le même article de la charte, je cite encore, pour ne pas heurter les diverses sensibilités des participants, les événements ou manifestations à caractère politique, militant ou électoral n'ont pas leur place dans les espaces du festival et a fortiori sur le tapis rouge, sous peine de la même sanction. Quand on sait qu'est paru ce matin dans Libération une tribune dénonçant, je cite toujours, le silence du monde de la culture face au génocide en cours à Gaza, tribune signée par des stars, des piliers du festival, d'anciennes palmes d'or et 3 des compétiteurs de cette année, dont le brésilien Kleber Mendonça Filho, qui avait fait de sa montée des marches en 2016 pour Aquarius un happening politique contre la destitution de Dilma Rousseff, eh bien on est prêt à parier que la tentative de mise sous cloche de toute expression politique fera vite long feu, puisque de toute façon, et c'est la ministre Rachida Dati qui l'a dit, réagissant aujourd'hui à la dite tribune, la culture et la politique, ça va ensemble.
Antoine Guillot, en direct de Cannes, on vous retrouve tous les jours dans le journal de 18h pour un suivi des temps forts du festival. Il s'est invité à la télévision ce soir pour évoquer les défis de la France. Le président de la République sera sur TF1 à partir de 20h10. Emmanuel Macron doit débattre avec Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, avec le maire de Béziers, Robert Médard, ou l'essayiste libérale Agnès Verdier-Molinier. Il sera aussi interpellé par le youtubeur Thibaut InShape ou le journaliste Charles Bietri, atteint de la maladie de Charcot. Et il répondra à des questions envoyées par des Français. Hier, dans l'Essonne, pour parler de l'attractivité économique du pays. Le chef de l'État sera de nouveau en déplacement demain sur la lutte contre la criminalité organisée. Pour le politologue Romain Pasquier, directeur de recherche au CNRS et enseignant à Sciences Po Rennes, le président signe manifestement son retour sur la scène politique nationale.
Après presque un an d'une forme de chaos politique générée par sa dissolution malheureuse, il est de retour, il est consolidé par évidemment, les événements internationaux extrêmement denses, où il a pu jouer un rôle au sein de l'Europe, mais également dans sa relation à Donald Trump. Donc, il est d'une certaine manière en haut de l'agenda médiatique et s'en sert dans un contexte où François Bayrou, effectivement, semble paralysé à la tête d'un gouvernement qui fait du surplace, d'une gauche elle-même déchirée, d'un Rassemblement national sous le coup de la condamnation de Marine Le Pen. Il y a un petit espace que le président de la République essaie d'occuper pour imprimer de nouveau son tempo sur la politique intérieure et sur un certain nombre de thématiques qui lui tiennent à cœur. Donc, je pense qu'il va reprendre, essayer de reprendre à sa main un certain nombre de thématiques historiques du macronisme, sur la simplification, sur des questions sociétales aussi, sur la fin de vie, pourquoi pas aussi les questions régaliennes sur l'immigration ou sur le narcotrafic, pour essayer de prendre une forme de magistère moral et politique sur ce gouvernement.
Le politologue Romain Pasquier avec Rosalie Lafarge. François Bayrou promet un texte au Parlement pour abolir formellement le Code noir qui légiférait l'esclavage dans les colonies françaises. À l'Assemblée nationale, lors de la séance des questions d'actualité au gouvernement, le Premier ministre a pris cet engagement en réponse au chef de file des députés Liot, Laurent Panifou, qui lui demandait l'abolition de cette ordonnance édictée en 1685 par Louis XIV, ordonnance qui régit la mise en esclavage d'êtres humains et le réduit au statut juridique de biens meubles. Aucun texte n'a formellement aboli cette ordonnance, d'après le député. Samedi, à Brest, à l'occasion de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, François Bayrou avait déjà déclaré « Nous ne devons pas nous taire. Cette histoire de l'esclavage doit être connue. Nous devons savoir. Et pour savoir, nous devons nommer, chiffrer, analyser cette réalité. » Il y a un an, jour pour jour, la Nouvelle-Calédonie connaissait une explosion de violences sans précédent liée à la contestation d'une réforme électorale. Ces violences ont fait 14 morts et des milliards d'euros de dégâts. Un an plus tard, l'archipel où aucune solution politique n'a encore été trouvée est toujours en grande difficulté sur le plan économique. Redoutons des débordements à l'occasion de cet anniversaire. 2600 policiers et gendarmes ont été déployés. Les manifestations ont été interdites dans la capitale Nouméa et son agglomération. Mais les militants indépendantistes bravent par endroits l'interdiction pour montrer qu'ils n'ont pas abandonné leur combat. Charlotte Manvi s'est rendue dans le fief indépendantiste de Saint-Louis au Mont-d'Or.
3 morts en un an et une vie au rythme des opérations de gendarmerie dans une tribu aux accès contrôlés. Le bastion indépendantiste de Saint-Louis a payé un lourd tribut dans le soulèvement qui a dégénéré en émeute il y a un an. Alors, interdiction de manifester ou pas, Marie-Berthe, 53 ans, tenait à être présente.
Moi, je me battrai jusqu'au bout pour mes petits-enfants, pour pas qu'ils vivent ce que nous, on est en train de vivre. On l'a déjà vécu avec nos parents, nous. Je vais me battre. Même s'il faut aller en prison, je m'en fous.
Marie-Berthe est la sœur de Christian Théin, en détention provisoire en métropole pour son rôle présumé dans l'organisation des violences. Comme elle, nombre d'habitants de Saint-Louis ont un proche en prison ou en attente de jugement. Varenzia, 18 ans, n'a pas vu son père depuis un an.
Mon papa, il est prisonnier en France. Là, ça va bientôt faire un an que je ne l'ai plus vu. Tous les jours, j'ai l'espoir de le revoir, qu'il sort. Que tout ça se finit.
Mot d'ordre du jour, se mobiliser dans le calme pour montrer que la détermination indépendantiste ne faiblit pas, malgré les inquiétudes. Des élections sont en effet prévues en fin d'année et déjà certains réclament une nouvelle réforme électorale. De quoi inquiéter André Forest, membre du bureau politique du FLNKS.
On espère que le gouvernement français a tiré aussi les leçons de cette histoire. Voilà, on ne reproduit pas les causes qui ont amené les effets qu'on connaît, quoi, les conséquences qu'on connaît.
Les élections provinciales doivent avoir lieu avant novembre. Le gouvernement français doit en fixer la date dans les prochains jours.
Charlotte Manvi à Saint-Louis en Nouvelle-Calédonie. Encore une enseigne de prêt-à-porter populaire qui joue sa survie. Jennifer, spécialisée dans la mode pour les adolescentes, avait déjà essuyé 2 plans sociaux et un redressement judiciaire ces dernières années. Fin avril, elle a été placée en cessation de paiement avec arrêt de l'activité prévu le 28 mai pour les 999 salariés, à moins qu'un ou plusieurs repreneurs se fassent connaître. Ils ont jusqu'à ce soir pour le faire. Bonsoir Camille Magnard.
Bonsoir Aurélie.
Comme Camailleux, Lahal, Pimki ou Koukaï avant elle, Jennifer fait les frais de la concurrence accrue de la vente et revente en ligne, des plateformes de fast fashion chinoises et des montages financiers pas toujours très fiables de ses propriétaires. On sait déjà, Camille, que tous les emplois ne pourront pas être sauvés.
Non, et c'est bien ce qui mine le moral des 999 salariés de Jennifer depuis l'annonce brutale du placement en liquidation judiciaire le 30 avril dernier. Élodie Ferrier est la secrétaire fédérale de la CGT Commerce.
Les salariés n'ont aucune idée à la fin du mois s'ils vont faire partie d'un magasin qui va être repris et auquel cas ils pourront peut-être conserver leur emploi sous une autre enseigne, soit d'un magasin qui ne sera pas repris du tout et de perdre complètement son emploi. Ça, ils ne le savent pas, ils ne le sauront pas avant fin mai.
Et d'ici là, on sait qu'il y a des offres de repreneurs, mais pas pour tous les quelques 220 magasins, le siège et les entrepôts de Jennifer. Il y a une liste qui circule d'une trentaine de boutiques qui sont les plus rentables à travers la France parce qu'elles se trouvent dans des centres commerciaux qui attirent toujours de la clientèle, à l'inverse des magasins de centre-ville qui sont plus délaissés. En attendant d'être fixés, les boutiques restent ouvertes, les salariés sont à leur poste et tous suivent de très près les rumeurs sur les offres de reprise. Comme nous le confirme Myriam Boumengel, elle est responsable de magasin et représentante syndicale CFE-CGC.
Les salariés sont très attachés à Jennifer, donc ça veut dire que là encore aujourd'hui, les collaborateurs ne lâchent pas jusqu'au bout. Il y a les charges de travail qui sont énormes, parce que vous doutez bien qu'on est en liquidation judiciaire. Mais c'est surtout l'ascenseur émotionnel. Est-ce que je dois arrêter ma nounou? Est-ce que oui? Est-ce que non? Est-ce que je dois annuler les congés? Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Je pense que c'est la plus grande interrogation que les collaborateurs se posent.
Et les candidats à la reprise de Jennifer auront jusqu'à la fin de la semaine prochaine pour améliorer leurs offres. Ensuite, le tribunal de commerce de Bobigny tranchera, décision effective et donc licenciement pour les moins chanceux le 28 mai.
Camille Magnard. Accueilli en grande pompe à Riyad, Donald Trump se frotte les mains. Le président américain dit avoir obtenu de pharaoniques promesses d'investissement et d'achat saoudien, en particulier dans la défense et l'intelligence artificielle. Il a signé avec le prince héritier Mohamed Ben Salman un partenariat économique stratégique et selon la Maison Blanche, le montant revenant aux États-Unis atteindrait 600 milliards de dollars. Donald Trump va poursuivre sa tournée au Moyen-Orient. Pendant ce temps, le premier ministre israélien tient des propos plus belliqueux que jamais. Alors que les États-Unis et le Qatar poussent pour une nouvelle trêve, Benjamin Netanyahou assure que l'armée va entrer à Gaza dans les jours à venir. Bonsoir Thibault Lefèvre.
Bonsoir.
Israël donc ne change pas de ligne, Thibault.
Eh bien, c'est tout simplement la première fois que Benjamin Netanyahou exprime aussi clairement ses intentions devant des soldats de réserve qui pourraient être bientôt appelés pour soutenir l'effort de guerre. Il a affirmé que son armée entrera prochainement avec force à Gaza. Il admet qu'une trêve est toujours possible, mais que dans tous les cas, elle ne sera que temporaire. Depuis la semaine dernière, l'armée israélienne prépare une offensive de grande ampleur. L'État hébreu a donné un ultimatum au Hamas pour capituler et libérer les otages. Il court jusqu'au 16 mai et la fin du voyage officiel de Donald Trump au Moyen-Orient. Alors cette prise de parole du Premier ministre n'a pas de conséquences immédiates, mais elle donne du poids aux négociateurs israéliens actuellement à Doha au Qatar et elle rassure sans doute les partenaires d'extrême droite de Benjamin Netanyahou qui menacent de faire tomber la coalition en cas d'accord imposé par les États-Unis. Autre signe rassurant pour ses alliés les plus bellicistes, le Premier ministre a rappelé qu'il travaillait à l'expulsion d'une partie des Palestiniens de Gaza.
Thibault Lefèvre à Jérusalem pour France Culture. Le président russe, lui, est toujours silencieux. Une délégation russe doit se rendre en Turquie pour des négociations avec l'Ukraine. Mais Vladimir Poutine sera-t-il lui-même présent lors de ces pourparlers directs? Rien ne vient le confirmer pour l'instant. Et aujourd'hui, le président ukrainien met une nouvelle fois la pression sur son homologue russe, l'accusant de ne pas vouloir la fin de la guerre. Volodymyr Zelensky.
Nous avons discuté avec le président Erdogan de mon intention de le rencontrer dans la capitale turque. Ce sera Ankara le jeudi 15. Nous y attendrons une rencontre avec Poutine. Et s'il n'est pas prêt à prendre l'avion pour Ankara, je tiens à dire que le président Erdogan et moi prendrons l'avion pour Istanbul. En tout cas, nous ferons tout pour que cette réunion ait lieu. Nous avons demandé au président Trump de nous rejoindre. Je ne sais pas quelle décision il a prise, mais cela donnerait une impulsion supplémentaire à la venue de Poutine. En Russie, personne d'autre que lui ne peut garantir le cessez-le-feu. Et personne à part moi ne peut négocier la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Selon la Constitution, ce sont mes droits et mes obligations. La vérité est de notre côté, mais pour le bien de la population, je pense que nous devons faire le premier pas.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, propos recueillis par Isabelle Labéry à Kiev, et Donald Trump fait savoir ce soir que le secrétaire d'État américain Marc Rubio va se rendre aux discussions entre Russie et Ukraine. Dans un décret présidentiel lu à la télévision nationale, la junte au pouvoir au Mali annonce la dissolution des partis politiques et des organisations à caractère politique. Plus tôt dans la journée, les militaires au pouvoir depuis deux coups d'État, en 2020 puis 2021, avaient abrogé la charte des partis qui fixait notamment leur cadre moral et juridique et encadrait leur fonctionnement, formation, création et financement. La junte, donc, semble vouloir mettre fin au multipartisme et au contre-pouvoir politique, Nathanaël Charbonnier.
Les militaires s'étaient initialement engagés à organiser des élections en février 2022. Mais voilà, le calendrier a sans cesse été repoussé. Depuis, 3 ans sont passés et on voit mal comment la junte pourrait quitter le pouvoir, d'autant que toutes les nouvelles qui arrivent du Sahel vont dans le même sens, celui d'un décrochage avec l'Occident, le Mali préférant se tourner soit vers la Russie, soit vers des alliances locales comme celle avec le Niger ou le Burkina Faso voisin. En interne dans le pays, la liberté est rétrécie aussi à vue d'œil, restriction de la liberté d'expression, la liberté d'informer n'existe quasiment plus, la société civile est bâillonnée, les partis politiques vont être dissous, l'influence de Poutine se fait largement sentir. Et les manifestations début mai à Bamako qui ont rassemblé des centaines de personnes ne sont pas de nature à faire plier le régime. L'actuel président Assimi Goïta entend même rester 5 ans de plus au pouvoir sans passer par les urnes. La dictature militaire est donc à l'œuvre, tout comme l'insécurité qui ne faiblit pas. On ne compte plus les massacres de populations attribués autant aux djihadistes qu'aux militaires au pouvoir.
Et la junte au pouvoir suspend jusqu'à nouvel ordre TV5 Monde au Mali. Elle reproche à la chaîne de télévision française un manque d'impartialité dans un reportage sur une manifestation de l'opposition. Enfin, c'est l'une des pires erreurs judiciaires au Royaume-Uni. Un homme qui avait passé 38 ans en prison pour le meurtre d'une femme en 1986 vient d'être innocenté par la justice britannique. Cet homme avait 30 ans quand il a été condamné. Il est désormais âgé de 68 ans. Il avait contesté en vain sa condamnation à plusieurs reprises. La Cour d'appel de Londres l'innocente finalement, expliquant que l'ADN trouvé sur la victime ne correspondait pas au sien. Demain, le temps sera sec et ensoleillé en plaine. Le ciel sera plus chargé sur le relief sud du pays et de la Bretagne au Pays de la Loire, avec des averses orageuses l'après-midi. Au petit matin, les températures varieront entre 5 et 13 degrés. L'après-midi, il fera de 21 à 26 degrés d'ouest en est, localement 16 à 19 près des côtes de la Manche.